Alors, on va passer au pétrole. Je vous avoue que j'ai été très surpris cette semaine de voir ce qui s'est passé sur pétrole, comme tout le monde. Hein. Là, je parle pas de la journée de lundi. Vous avez vu, on est passé à l'ouverture de $85 sur le Brut à 120 pour redescendre à 90 dans la journée sur une déclaration de Donald Trump. On a eu l'annonce de la libération d'une partie des réserves stratégiques de pétrole. Jamais on n'a libéré autant de barils, 400 millions de barils à titre de comparaison. C'est un mois de consommation en Europe. Alors, évidemment, je comprends l'importance du pétrole, mais quand même, on est toujours aussi dépendant, alors qu'on n'est plus dans les années 70. On a eu, entre-temps, on a eu l'éolien, on a eu le solaire, on a le nucléaire, on a le charbon encore en Asie. Qu'est-ce qui fait qu'on soit aussi dépendant encore aujourd'hui du pétrole?
Alors, Léa, j'ai du coup réfléchi. Regardez, effectivement, sur l'intensité, on est moins dépendant. Il faut aujourd'hui 40% moins de pétrole pour produire 1 euro de pipe par rapport à la première crise pétrolière, par rapport à ce stress. Donc, effectivement, en intensité, on est moins dépendant du pétrole. À l'inverse, par contre, en valeur absolue, non. L'économie ayant cru, les besoins en pétrole, avec une taille d'économie multipliée par 5 depuis 73, les besoins en pétrole ont augmenté. Je dirais pas qu'on est autant dépendant, je dirais qu'on est encore sur de la phase de transition. Le transport, par exemple, à 80%, on est dépendant du pétrole. Le problème avec le blocage du Détroit, c'est la pétrochimie, la grille, on a une succession de secteurs qui, eux, sont dépendants. Donc, on est en transition, mais on a encore fortement dépendant, parce qu'on n'a pas encore fini ça. Et l'idée à avoir, c'est ces réserves stratégiques qui ont été débloquées, c'est effectivement massif, mais c'est vous avez une route bloquée, vous avez un pare-choc, même si vous avez un bon pare-choc, la route, elle est quand même bloquée derrière. Donc c'est un soutien, effectivement.
Mais massif, quoi. Et ça n'a eu aucun impact sur le marché.
Ça n'a pas eu d'impact. Mais parce qu'effectivement, le problème, c'est on a lâché un stock, mais on a derrière le problème du flux. C'est, on arriverait à avoir un effet positif de ça si derrière on avait, et encore une fois, c'est cette question de type de scénario. Le premier scénario de quelques semaines, c'est un scénario d'incertitude, c'est un scénario de peur, c'est un régime de peur. Donc tant qu'on n'a pas une vision claire, vous aurez beau déclencher les réserves, ça ne changera pas le problème.
Oui, il va.
Bon, juste, il oui. y a même des produits qui sont comme l'hélium qui est fabriqué par le Qatar à 30 à 40%, qui est essentiel pour faire des IRM ou pour faire des semi-conducteurs. Donc c'est vraiment clé. Mais il y a une chose sur laquelle vous nous avez fixé, c'est l'idée que cette guerre finirait quand Donald Trump déciderait qu'elle serait finie. Or, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que les Iraniens, aujourd'hui, sont les gens qui vont décider quand cette guerre sera finie. Et en fait, c'est tellement une raison de survie pour eux. Ils ont maté leur peuple avant. Ils ont appris avec la guerre de juin l'année dernière. Donc on n'est plus dans la même configuration que la guerre de juin l'année dernière, où Trump a dit « Allez, la guerre des 12 jours est finie », là il va nous dire « La guerre des 36 jours est finie », et les Iraniens vont dire non, parce qu'en fait ils ne veulent pas que le plat repasse tous les 6 mois ou tous les 2 ans. Donc comme ils ont réussi à sécuriser le régime...
Je ne suis vraiment pas d'accord avec vous, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on n'imagine pas, et je ne suis pas un expert militaire, c'est l'état de destruction de leur défense, du pouvoir,
de l'arsenal. Pas de leur puissance de nuisance.
Oui, leur ils ont une puissance de nuisance.
Oui, mais ils vont nuire jusqu'à ce qu'ils obtiennent quelque chose. Ils vont nuire jusqu'à ce qu'ils obtiennent quelque chose.
Ce n'est pas du tout mon scénario, parce que je pense qu'ils sont dans un état d'affaiblissement qui est spectaculaire. Donc vous, votre scénario, c'est une guerre qui va s'enliser, en fait.
Ouais, moi c'est un vrai problème. Une guerre dans laquelle un des combattants va penser quitter le champ de bataille et l'autre va continuer à pourrir la situation. Moi, ça, jusqu'à ce qu'il obtienne quelque chose.
Et obtenir quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'obtienne un régime qui est aussi fragilisé?
Obtenir une garantie de sécurité, quelle qu'elle soit de ses voisins, soit des États-Unis, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Ils ne peuvent pas s'arrêter là.
La place du pétrole sur l'économie mondiale, ça ne vous surprend pas tout?
Non, effectivement, et je rejoins tout à fait l'analyse qui a été développée. C'est-à-dire, on voit bien qu'on dépend. Il y a le pétrole en termes de dépendance d'énergie, et puis il y a toute la pétrochimie et tous les secteurs qui utilisent encore des pétroles, des dérivés, soit en produits finis, soit en intrants. Simplement, petite parenthèse là, par rapport à ce qui a été dit, là, je vais dans votre sens. Les stocks stratégiques.
Dans le sens de l'air, pour les gens qui nous écoutent à la radio, ils vont penser que vous êtes d'accord avec moi, ce qui va les surprendre.
Alors, non, je suis plutôt suisse, donc
c'est vrai,
d'accord. Les stocks stratégiques ont été annoncés. La libération de ces stocks va demander, par exemple, pour être acheminé en Asie, de l'ordre de 5 mois.
Okay.
Donc, ça veut dire, c'est pour ça, peut-être
c'est
que le marché
plus psychologique
n'a pas réagi.
Pour l'instant.
Donc, et puis, le pétrole, ça reste quand même, je dirais, un relevé de température de l'état de l'économie mondiale. La hausse du prix du pétrole, ce serait plutôt un niveau de haute conjoncture. Alors que là, effectivement, on est dans un choc d'offres.
Mais ce que dit Louis, c'est qu'on est dans un contexte quand même général avant, remettons-nous juste avant la crise en Iran. On était quand même sur des sujets qui commençaient à nous inquiéter sérieusement. L'IA, le ralentissement du cycle de croissance américain, l'Europe, bon, qui était à la traîne de l'Allemagne et attendait le plan de relance. Tout ça, plus ce choc actuel, c'est quand même un choc sur la croissance.
Ah, c'est effectivement.
Et un choc sur la croissance, c'est aussi un choc sur l'inflation ou pas ? Pas forcément. C'est-à-dire, alors, on peut avoir une situation de stagflation.
Alors, on est en train de distiller des morceaux de stagflation, c'est-à-dire de croissance réduite et d'inflation supplémentaire. Et là, le problème, c'est que l'inflation supplémentaire détruit la demande.
C'est ça.
Et donc, dans le cycle dans lequel on était en train d'entrer, c'était un cycle, on le rappelle, dominé par l'investissement, avec plusieurs niveaux. Les interrogations, en fait, c'était beaucoup plus sur le prix. Combien je paye, en fait, pour une société qui est dans les nouvelles technologies et comment je vais monétiser l'investissement. Mais l'engagement de ces entreprises-là en termes d'investissement, qui n'ont pas d'ailleurs été renouvelés sur les derniers jours, ou du moins, on n'est plus dans ce discours de course à l'armement, en quelque sorte, sous l'angle de l'investissement, lui, était bien, bien ancré et on voyait même dans des pays qui étaient en retard comme l'Allemagne, où les commandes publiques commençaient à arriver dans les carnets de commandes.
Vous pensez que ça va bloquer
ces choses-là, ces éléments-là.
Par exemple, le réarmement allemand, au contraire, on peut se dire que compte tenu du contexte, ils vont accélérer leur réarmement, non ?
Je pense qu'ils sont déjà en phase d'accélération. On l'a vu, effectivement, pour avoir une nouvelle phase où il faut de nouvelles décisions budgétaires, où il faut effectivement, mais il faut de la confiance. Les capacités de production, et on va buter sur les capacités de production, que ce soit la défense, que ce soit dans les secteurs traditionnels. Et là, effectivement, la seule moyen de s'en sortir, c'est des dépenses en équipement. Les entreprises vont pas prendre aujourd'hui, si vous êtes une entreprise large et diversifiée, où est-ce que vous allez investir, dans quelle région et à quel coût de matières premières. Donc on revient effectivement sur une thématique qui était présente juste avant ce choc avec l'Iran, qui était la géoéconomie, c'est-à-dire il faut sécuriser l'accès aux ressources énergétiques, quelles qu'elles soient, pour sécuriser sa croissance domestique. Et là, c'est le problème de chacun des pays, puisqu'ils sont inégaux, et le mix énergétique de chacun des pays est complètement différent.
Pierre ?
Ouais, moi, ce que je trouve assez incroyable dans cette histoire, c'est que finalement, le monde entier est pris en otage à cause d'un petit détroit de quelques dizaines de kilomètres de largeur. Et ça, moi, je trouve que, en fait, qu'on dit depuis tout à l'heure, je pense que c'est une formidable opportunité, en fait, pour l'Occident, en tout cas pour l'Europe, de se mettre maintenant en marche pour vraiment décrocher du fossile, parce qu'on peut pas rester comme ça dépendant de situations de géopolitique à l'autre bout de la planète. Donc là, il y a déjà, comme disait Léa tout à l'heure, il y a déjà quand même un mouvement qui a été fait depuis les années 70, quand même déjà un affranchissement quelque part. Mais là, c'est vraiment un choc additionnel pour dire il faut continuer à électrifier, il faut continuer à travailler sur la souveraineté.
C'est vraiment un goulet d'étranglement dont vous dites c'est l'opportunité d'essayer de le faire sauter. Je sais pas comment, mais il faut.
Non, mais une opportunité de s'affranchir du fossile. Voilà, pour une région comme l'Europe, par exemple. Voilà.
Mais alors, ce qui commence à être le cas, quand même.
On a quand même von der Leyen, qui était une disciple de Mme Merkel, que vous aimez beaucoup, qui a quand même dit que
l'arrêt
nucléaire avait été une catastrophe. Donc on revient sur cette idée-là, mais ça va mettre des décennies.
Absolument.
Ça dépend.
Juste Léa, sur la croissance américaine par rapport à ce que disait Louis avant, on était dans une fin de cycle de croissance ou sans cette guerre ?
Alors, moi j'ai toujours j'étais très optimiste sur la croissance américaine, je pense qu'on la réaccélère pour des questions un
Donc
peu...
Donc il dit n'importe quoi ?
Non, on a des avis divergents et c'est normal, c'est plutôt sain de pouvoir avoir des avis qui sont divergents.
Vous êtes tué ?
Non, je pense que... Alors moi j'avais un scénario de réaccélération de la croissance américaine parce que...
Quel niveau sur 2026 avant le choc ?
2,5.
Ah oui, d'accord.
À ce stade, je ne change pas le scénario à supposer qu'on est sur des durées courtes. Parce qu'effectivement, on a toute l'impulsion du plan fiscal de l'année dernière qui va soutenir la consommation des ménages qui était un peu faiblarde. Le marché du travail ralentit, mais il normalise plutôt qu'il craque. Et on avait cet effet richesse entretenu par la hausse des actions, plus les investissements en IA. À ce stade, ce scénario-là tient encore pour moi. Maintenant, alors les États-Unis sont moins dépendants de ce choc-là, à la fois côté inflation et côté croissance. Le vrai risque, et je reviens à votre question tout à l'heure sur les histoires de taux, si on rentre dans un scénario plus large, c'est des chocs de ça va être un choc de séquence. C'est un choc d'offre, donc avec l'effet hausse de taux ou autre, mais derrière, avec les fragilités qu'on a sur le choc d'action, c'est un choc de demande, avec une crise économique qui peut se transformer en crise de marché et potentiellement systémique, vu toutes les fragilités qu'on a.
Ah,
et celui-là n'est pas du tout dans le marché.
Alors là, c'est la conclusion de la première partie, c'est que c'est l'apocalypse, je ne suis pas d'accord du tout.